T'as vraiment choisi ce moment pour te laver les dents ?
Faut être propre pour passer à la radio, Mimi.
J'ai souvent entendu qu'il fallait être fort, fort face à la maladie, fort face aux épreuves. De quelle force est-ce que l'on parle à ce moment-là ? Est-ce que parfois il n'est pas nécessaire d'accepter de vaciller ? Ouvrir une brèche, laisser entrer l'autre. Est-ce que c'est là que ça commence, ce lien fragile qui s'invite quand quelqu'un murmure ? Moi aussi, je sais. Puisque parfois, oui, la fragilité nous met de côté, nous éloigne du reste du monde. Elle devient une vitre entre nous et les autres. Et puis parfois, elle ouvre une porte. Elle invente des complicités nouvelles, des confidences qu'on ne soupçonnait pas. Est-ce que vous l'avez déjà senti, vous, ce moment où tout vacille, où le sol se dérobe un peu sous vos pieds et soudain, une main ? Une main qui se tend, pas forcément celle qu'on espérait, pas celle qu'on connaissait non plus. C'est une main inconnue parfois, une main qui devient une sœur, une alliée. Il y a peut-être parfois une force qui naît dans l'épreuve, une lumière. On ne la voit pas tout de suite, il faut du temps, il faut des mots, il faut des regards. Mais un jour, elle est là. On va parler d'Octobre Rose aujourd'hui puisque ce mois, c'est bel et bien des chiffres importants à rappeler, des rubans, des affiches dans l'espace public pour sensibiliser. Mais c'est aussi cette lumière tenace qui passe d'une femme à l'autre. Une communauté invisible qui grandit, qui se tisse à travers l'épreuve. Et c'est avec Lucie Rupert, présidente des Agathes Roses, que j'ai eu envie d'en parler. Justement, Lucie, vous êtes à mes côtés. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et puis en seconde partie d'émission, ce sera le premier reportage Pensée Locale de la saison, en partenariat avec la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire pour ce premier volet. On restera à Laval, dans le quartier du Grand Saint-Nicolas, là où s'expérimente depuis 2021, territoire zéro chômeur de longue durée. Une idée un peu folle, née en 2016, transformer le coût du chômage de longue durée en emploi utile et adapté. J'ai tendu mon micro à Patrick Valentin, l'un des initiateurs du projet, à Taous, bénéficiaire, et à Claude Baquet, réalisateur du film Utopie Zéro Chômeur. Trois voix qui dessinent ensemble un premier bilan entre utopie et réalité. Puis on terminera l'émission avec la chronique Un autre écho de l'écho, la voix de Soizic qui ne caresse pas l'actualité dans le sens du poil, mais qui la questionne, une chronique pointue, exigeante, qui creuse les liens entre économie et écologie, qui relève les angles morts, les contradictions. Tiens, l'auditeur de l'autre radio est là, il s'installe. Allez, tendons l'oreille. Moi, c'est Margot et vous écoutez l'Agité du local. L'émission commence maintenant.
Vous écoutez l'Agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Octobre rose, c'est chaque année un mois de sensibilisation au cancer du sein. Mais derrière les rubans roses, il y a surtout des femmes, des histoires et parfois des rencontres qui transforment l'épreuve en force collective. Aujourd'hui, on reçoit la présidente des Agathes Roses, une association lavalloise qui accompagne, soutient et rassemble. Avec elle, on va parler des événements prévus en octobre, mais aussi de ce qui naît quand la maladie rapproche plutôt qu'elle n'isole. Merci Lucie d'être avec nous aujourd'hui pour en parler. Est-ce que vous pouvez peut-être, pour commencer, présenter les Agathes Roses, comment est née l'association et quelles sont ses missions principales ?
Alors, les Agathes Roses, c'est une association qui est née en 2018 à l'issue de mon parcours de cancer du sein. J'ai eu envie de clôturer cette aventure par une belle aventure, un voyage avec mes amis. Et on a créé l'association. On est parti au Maroc faire un trek. Et en revenant, on s'est dit, ben, finalement, on pourrait peut-être la garder, cette association, et faire des choses au niveau local, au niveau de Laval et des environs, pour soutenir les femmes. Et puis aussi pour prévenir, en fait, faire de la prévention auprès du grand public.
Les Agathes Roses, c'est un nom qui fait écho à quelque chose, j'imagine.
C'est une pierre, l'agate. Mmh. Et donc, on cherchait un nom, on allait dans le désert, voilà, cette pierre, on peut la trouver là-bas. Et voilà, ce nom nous est venu tout naturellement.
Lucie, pourquoi c'est toujours aussi essentiel de sensibiliser au cancer du sein ? Il y a ce mois qui revient,
ouais,
où on rappelle... Le dépistage, c'est important.
Le dépistage, c'est important. C'est important parce qu'on en a peur. Hein. On voit bien qu'il n'y a quand même qu'une femme sur deux qui va faire sa mammographie à partir de 50 ans. Parce qu'on a peur. C'est vrai que c'est anxiogène, mais en même temps, il faut essayer de la surmonter, cette peur. Parce qu'il y a Anne, dans un des portraits des femmes qui va bientôt être affichée en ville, qui le dit très justement. Elle dit « Vous n'en pincez pas pour lui. Pris à temps, il pincera moins fort. » Et c'est vrai... Si on peut éviter d'avoir un cancer trop invasif, eh ben, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, des fois, heureusement, il n'y a rien du tout. Donc voilà, la prévention, c'est quand même important parce que c'est pareil, nos jeunes, elles ne savent pas, elles ne pratiquent pas l'autopalpation. Donc, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place et d'apprendre. On a un buste d'autopalpation. Donc, on peut, au mois d'octobre, mais aussi en dehors du mois d'octobre, aller dans les maisons de quartier, les associations, proposer justement, montrer les gestes de l'autopalpation.
Quand des femmes se retrouvent autour de cette épreuve, j'en parlais en introduction de cette émission, ouais. Qu'est-ce qui naît entre elles ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien justement un peu inattendu qui surgit à ce moment-là ?
Si, il y a une incroyable solidarité. Nous, on le voit bien au sein de notre association. On a créé un petit groupe WhatsApp avec toutes les femmes qui participent à nos ateliers, qui souhaitent être dans ce groupe-là. Et voilà, c'est plein d'échanges, plein de bons tuyaux qu'on se donne entre nous. J'ai mal au bras, quel kiné je peux aller voir ? Et puis voilà, ça fuse et il y a vraiment, vraiment beaucoup d'entraide.
On parle beaucoup de prévention et on va en parler juste après ensemble et de dépistage en octobre. Mais il est aussi important de parler de l'après. Je voulais en parler avec vous, oui. Lucie, de ce qu'il se passe une fois le traitement terminé. Oui. On n'en parle pas assez finalement, c'est pas encore terminé.
C'est forcément. Pas encore terminé et c'est presque ce qui est ressenti de plus difficile pour les femmes qui sont passées par le cancer du sein parce que tout s'arrête, les traitements s'arrêtent. On n'est plus dans cette petite bulle entourée de tout le corps médical. Non, madame, ça y est, maintenant vous revenez nous voir dans 6 mois. La famille pense que tout va bien puisqu'on n'a plus de traitement, tout va bien. Mais en fait, il s'est passé tellement de choses, on n'est plus la même femme après un cancer du sein. Donc il faut se reconstruire et réapprendre à vivre normalement. Et ça, c'est difficile parce que tout le monde pense autour de nous que c'est fini, la page est tournée, maintenant, allez, on continue. Mais on a quelques valises à poser quand même.
Qu'est-ce que vous recommanderiez déjà, peut-être un accompagnement psychologique qui a peut-être commencé parfois en amont, parfois pas, j'imagine, oui. Chaque parcours est différent, mais aussi pour les proches de continuer à questionner,
soutenir,
à être attentif.
Ouais. À être attentif, à être prévenant et oui. Après, le parcours psychologique, oui, il est souvent proposé quand même, heureusement, par les structures médicales dès le début du parcours. Ça, c'est essentiel si on sent qu'on perd pied. Hein. Puis, de toute manière, on perd un peu pied hein, quand on apprend un cancer du sein, c'est un véritable tsunami. Et puis après, si on n'a pas ressenti le besoin pendant les traitements, mais qu'après, ça devient difficile, faut surtout pas hésiter à se faire aider.
Justement, comment l'association Les Agathes Roses accompagne ce retour à la vie quotidienne qui n'est pas tout à fait comme avant, comme on vient de le dire, entre femmes ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Peut-être que c'est aussi une manière de se dire je suis pas toute seule avec ces questions, ces ressentis.
C'est ça. Les femmes, elles ont besoin d'échanger entre elles, en fait. Et donc, nous, notre premier atelier qu'on a mis en place avec les Agathes, ça a été, on a voulu rassembler les femmes, faire des ateliers papotage, des petits cafés papotage, loin des structures médicales. Donc on a instauré ça, les agathées. Donc on se retrouvait le samedi matin, tous les 2-3 mois, dans un petit café Lavallois. Et on discutait, tout simplement. Il n'y avait pas de médecin, l'entraide, les échanges entre les femmes font beaucoup de bien.
Je parlais d'inconnus en introduction de cette émission. Parfois, il y a des mains qui se tendent qu'on n'imagine pas.
Exactement, ouais.
J'imagine que l'association, c'est aussi ce qu'elle permet.
Exactement, les amitiés sont nées. Oui, complètement.
C'est aussi une force, du coup, dans un parcours aussi difficile, avec différentes étapes.
C'est important, on se raccroche aussi à... Et puis, ça fait du bien aussi de voir que les autres vont bien. Peut-être que moi aussi, ça va aller mieux. Et c'est se raccrocher à tout cet espoir qu'on voit quand on est entre nous. On rigole beaucoup quand même, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut essayer de... ben, d'être résiliente et puis d'avancer.
Un des risques, peut-être des dangers de la maladie, en plus de la maladie en elle-même, c'est l'isolement.
Oui, oui. Alors, ça fait partie des... Bah oui, oui, malheureusement, il y a aussi beaucoup de femmes pendant les parcours qui se retrouvent seules, qui doivent affronter seules les rendez-vous médicaux, affronter seules des annonces très difficiles à entendre. Et c'est aussi le but des Agathros, quoi, d'être là. Elles savent que si elles ont besoin, on peut les accompagner, on peut être là pour les soutenir dans ces moments compliqués, souvent.
Lucie, vous êtes la présidente de l'association Les Agathros et donc pour ce mois d'octobre qui commence aujourd'hui, il y a tout un programme prévu à Laval. Différents rendez-vous sont donnés. Est-ce qu'on peut le regarder ensemble, ce programme?
Oui, bien sûr.
Quelle date peut-être à noter?
Alors, le grand événement de sensibilisation, c'est cette année, on a souhaité mettre en place une campagne de sensibilisation au cancer du sein. Donc, on a, à l'aide d'Anne-Cécile Estève, une photographe qu'on connaît bien, elle a fait le portrait de 18 femmes. Et chacune et chacun, parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes accompagnées de leur mari, il y a aussi il y a un trio mère, fille, grand-mère. Il y a trois photos avec des femmes avec leur médecin. Et chaque portrait est souligné par un petit message qui a été réfléchi. Écrit par la personne ou les personnes qui ont été prises en photo.
On imagine que parmi les étapes de la maladie, il y a un rapport justement au corps et à son image aussi qui est...
Oui, elles sont courageuses. Mmh. Elles sont toutes très courageuses d'avoir accepté de prendre la pause parce que c'est pas facile. Mmh. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions samedi quand tout le monde va pouvoir les voir dans le centre-ville de Laval et encore plus pour les participants.
Le 5 octobre, les Foulées Roses à Saint-Berthevin.
Oui, on sera présente avec notre stand sur lequel on aura notre buste d'autopalpation. Donc, on pourra, si les gens sont disposés à apprendre les gestes d'autopalpation, on leur montrera avec grand plaisir.
Vous serez également présente dans différents lieux. Il y aura un stand de sensibilisation le 11 octobre à la pharmacie de Saint-Nicolas, une journée de prévention le 7 octobre avant, donc à la polyclinique du Maine. Et il y a une soirée importante qui a lieu au Levrette Café le 17 octobre.
17 octobre, oui. Alors ça, c'est une soirée, c'est la deuxième édition. On y est, pareil, avec notre stand de prévention. Et puis, il y a quelques... Il y aura aussi quelques commerçants qui seront aussi présents, voilà, qui nous soutiennent dans cette action.
Un stand d'autopalpation aussi animé par vous aura lieu le 18 octobre. Il y aura également une marche nordique au terrain de foot.
Au terrain foot de Changé. Effectivement, c'est organisé par l'équipe féminine du club de football de Changé. Donc, un stand d'autopalpation et une marche nordique encadrée par une éducatrice sportive et suivie d'un grand ruban rose qui va être réalisé sur le terrain de foot de Changé.
Il y a différentes dates. On les retrouve toutes sur vos réseaux sociaux.
Au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il faut qu'on publie cette petite planche avec toutes nos petites dates, voilà.
Qui permettent de bien noter dans nos agendas les différents rendez-vous. Qu'est-ce qui vous tenait peut-être le plus à cœur, vous, Lucie, de rappeler pour ce mois d'octobre?
Eh bien, surtout, c'est le mois de la prévention, donc observez-vous les filles, regardez votre poitrine. Pensez aux gestes d'autopalpation tous les mois. Et puis, au moindre doute, vous consultez. Et voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller.
Et dès le plus jeune âge, en fait, on peut le faire.
Dès le plus jeune âge, en fait, dès 20 ans. Dès 20 ans. Enfin, nous, la campagne qu'on a réalisée, on a pris des jeunes de 19 à 70 ans, justement pour montrer que, à tout âge, la prévention, elle est importante. Et oui, il faut apprendre dès l'âge adulte à commencer l'autopalpation. Parce que malgré tout, on va aller voir son gynécologue normalement une fois par an, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à connaître sa poitrine pour détecter la moindre anomalie, en fait, et se regarder.
dans la glace.
Oui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Lucie, mais plus le cancer est détecté...
Tôt, en général, bah, c'est, l'idée, c'est d'éviter des traitements trop invasifs. Voilà. Donc, plus c'est décelé tôt, meilleur le pronostic est.
L'exposition de photographie aura lieu, promenade aura lieu, oui, enfin on pourra la découvrir en tout cas, promenade Anne d'Allègre, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, donc on invite les auditeurs.
Et sur les grilles du Zoom.
Et sur les grilles du Zoom.
Dès ce soir.
L'auditeur ou l'auditrice à venir faire un tour, surtout qu'il fait beau, donc il faut, en profiter. Où est-ce qu'on vous contacte, où est-ce qu'on vous retrouve si un auditeur ou une auditrice est interpellé par, par notre échange aujourd'hui?
Alors, nous avons un site... on n'a pas de site internet, pardon. On est sur les réseaux Facebook et Instagram, les Agathe Rose. Voilà.
Ou alors, allez-vous voir aussi sur les différents rendez-vous, évidemment, que vous proposez pour ce mois d'octobre. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, dans quelques instants, on fait ensemble un premier bilan du Paris Territoire Zéro Chômeur Longue Durée à Laval, dans le reportage Pensez Local du jour. Mais avant, quelques fragments de vie en chanson, cette fois avec le nouveau titre de Vernis Rouge. On écoute tout de suite La Fille.
Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis l'histoire qu'on raconte, le mythe qu'on adore. Les étoiles me regardent pour savoir comment brille. Au milieu du décor, je lutte contre ma mort. En même temps que tu dors, je bats tous tes records. Dieu croit en moi, c'est pas réciproque. J'ai un seul vœu, lui montrer qu'il a tort. Je prends ce que je veux, ton avis m'indiffère. Même ton cul devient secondaire. Parle plus fort si tu veux me faire taire. Tout ce que je sais, je le sais sans effort. J'ai dit parle plus fort si tu veux me faire taire. Tout ce que je sais, je le sais sans effort. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis le dress code de ta soirée en toc. Tous les matins, je me fais mes œufs à la coque. Bienvenue dans la nouvelle époque où tous les gosses se font des œufs à la coque. C'est pas la mer à boire, c'est juste ta mère en boîte. C'est pas la peine de pleurer, c'est que tout le monde est claqué. J'ai pas le temps pour la vie et l'amour. Je vois grand à la vie et à la mort. Parle plus fort si tu veux me faire taire. Tout ce que je sais, je le sais sans effort. J'ai dit parle plus fort si tu veux me faire taire. Tout ce que je sais, je le sais sans effort. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la fille que tout le monde attendait, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la seule fille dont tout le monde parle, la seule fille que tu n'auras jamais. Je suis la seule fille dont tout le monde parle, la seule fille que tu n'auras jamais. T'es le héros de ta série B. Moi je suis pas twist que t'as pas vu passer. Je suis la fille qui te file le track. Je suis la fille qui t'enfile sans crack. Je suis le blockbuster que tu voudras revoir. T'es le spectateur qu'on ne voudra plus voir. Je suis le blockbuster que tu voudras revoir. Toi t'es l'imposteur qu'on ne voudra plus voir.
Transformer une dépense en opportunité, le pari de territoire zéro chômeur longue durée. Depuis 2016, plusieurs territoires en France expérimentent ce dispositif. À Laval, c'est le quartier du Grand Saint-Nicolas qui s'est engagé dans la démarche à partir de 2021. Ce dispositif transforme le coût du chômage de longue durée en emploi utile et adapté. Alors pour comprendre comment une idée se transforme en réalité locale, j'ai tendu mon micro à Patrick Valentin, à l'origine de l'idée, à Taous, bénéficiaire du dispositif, et puis à Claude Baquet, réalisateur du film Utopie Zéro Chômeur. Et c'est à travers leur voix que se dessine un premier bilan de l'expérimentation lavalloise. C'est le premier reportage Pensée locale de la saison. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Depuis mars 2021, Laval Agglo est candidate pour expérimenter Territoire zéro chômeur de longue durée dans le quartier du Grand Saint-Nicolas. Un film a été réalisé pour raconter cette démarche et sous différents angles, dresser un premier bilan de l'expérimentation. C'est l'occasion aujourd'hui de revenir sur ce qu'elle a changé pour le territoire, mais surtout pour celles et ceux qui l'ont vécu. Mais pour commencer, à l'origine de cette idée, Patrick Valentin, il raconte comment est née l'expérimentation et ce qu'elle change dans notre façon de penser le chômage de longue durée.
J'ai commencé en 1992. C'est l'idée que personne n'est inemployable, que ce n'est pas le travail qui manque, et qu'en plus, ce n'est pas l'argent non plus qui manque. Au lieu de dire « allez chercher du travail », on dit « nous, on va chercher des employés ». Et c'est avec ces personnes-là qu'on fera du travail. Donc on met les choses à l'envers en tant qu'employeur. Au lieu de se dire « il faut que je recrute pour tel poste », on dit « qu'est-ce qui est là et qui veut travailler et qui n'a pas de travail ?» Eh bien, je vais chercher à organiser du travail pour cette personne. Territoire zéro chômeur donne une place importante à l'autorité locale. Il faut que le maire ou l'élu local puisse présider le comité local pour que ça marche. On a besoin d'une autorité locale pour équilibrer les choses entre les différentes parties prenantes de l'économie. Il faut que tout le monde trouve sa place et il faut que personne se sente mal placé. Et pour ça, il faut un arbitre.
Oui, un arbitrage national serait incohérent.
Voilà, oui, l'arbitre est forcément local parce qu'il n'y a pas deux situations pareilles. Toutes les situations sont différentes les unes des autres et l'arbitre est justement là pour dire « bon, la règle c'est une chose, mais ici, chez moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Comme sur un terrain de foot, hein, faut un arbitre.
Mais derrière l'idée, il y a des vies comme celle de Taous, bénéficiaire du dispositif, qui raconte ce que ça a changé pour elle.
J'habite dans le quartier Saint-Nicolas sur Laval et j'ai intégré Territoire Zéro Chômeur depuis les tout débuts.
Tu as quel âge, Taous, aujourd'hui ?
Oula, j'ai peut-être 53, peut-être.
Quelle était ta situation, toi, Taous, avant d'entrer dans le dispositif ?
Je connaissais pas trop le monde du travail. En même temps, ça me faisait un petit peu peur, mais je crois que c'est les chantiers d'insertion qui m'ont aidée à... Comme je suis quelqu'un qui est assez réservé, assez dans mon petit coin, solitaire, donc j'appréhendais beaucoup.
Et alors comment est-ce que tu as entendu parler du dispositif et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer ?
C'est peut-être en venant fréquenter la maison de quartier, travailler à Bois Debout déjà, mais en restant en recherche d'emploi. Bois Debout, c'était un chantier d'insertion. Et là, j'ai entendu parler qu'il y aurait quelque chose qui allait se monter, Territoire Zéro Chômeur. En fait, c'était histoire de me dire que j'allais rentrer dans quelque chose où j'aurais un emploi stable, signer un CDI. Et entre guillemets aussi, choisir son temps de travail. Ça, c'était aussi important. À la base, j'ai intégré pour aller à la ferme.
Oui, puisqu'en parallèle de ce dispositif qui était en train de se monter, il y avait également la mise en place d'un projet de ferme urbaine dans Laval, plus précisément dans le quartier de Saint-Nicolas, justement.
J'ai appris à travailler le bois et tout. Et c'est ça qui m'a fait un peu changer mes idées. Voilà, j'ai plutôt parlé bois, comme on parlait des différentes activités qu'il allait y avoir. C'est ça qui me motivait parce que j'allais rentrer dans un domaine qui me plaisait. J'avais l'opportunité de rentrer dans ce dispositif-là. J'ai eu peur et en même temps, j'étais boostée et hâte que tout commence et que tout hop, soit réel.
Et alors, depuis le début de cette aventure, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien ?
Ce qui a changé dans ma vie, en fait... C'est que j'ai une situation. Je suis rentrée à mi-temps, 26 heures, et il faut que je voie avec la directrice si je peux monter un peu dans mes heures.
Aujourd'hui, est-ce qu'il reste des difficultés que tu aimerais surmonter ou est-ce que tu as peut-être même envie plutôt de m'expliquer des difficultés que tu as surmonté grâce au dispositif.
Je suis quelqu'un de réservé et tout, timide. En fait, depuis que j'étais rentrée à Territoire Zéro Chômeur, on faisait des réunions au début, ça c'était difficile. Mais après, voilà, au fil du temps, j'étais de plus en plus à l'aise.
Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant dont tu aurais envie de nous parler ?
Quand Lucie m'a appelée pour venir signer mon contrat, c'est écrit, quoi, ça y est. Ça, et un autre petit truc tout bénin, hein, mais la fois où on m'a fait confiance pour conduire la camionnette. Parce que je ne conduis jamais. J'ai le permis, ouais, mais je ne conduis pas. Ça s'est bien passé.
Après cette expérience, est-ce que tu as des projets aujourd'hui que tu n'aurais pas forcément imaginé avant ?
Je ne sais pas, j'aurais eu envie de passer un examen ou un diplôme, une formation, quelque chose quoi, pour être dans la menuiserie. C'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Et après, plus tard, de me dire, tiens, voilà, tu as commencé tard dans ta vie, mais tu as ça aujourd'hui.
Comme Taous, d'autres bénéficiaires ont trouvé une place grâce au dispositif. Pour garder une trace de ses parcours et en tirer un premier bilan, un film a été réalisé à Laval. Son titre, Utopie Zéro Chômeur, son réalisateur, Claude Baquet, pose un regard extérieur sur cette expérimentation.
Le projet était, dans ma tête, une espèce de pari, finalement, de croiser plusieurs niveaux de parole, d'une certaine façon, les paroles des salariés, les paroles des encadrants, en tout cas tous les gens qui étaient sur TZCLD à Laval, plus les élus, et puis les personnages un peu historiques que sont Patrick Valentin, qui était le fondateur de TZCLD, Claire Hédon, qui est actuellement la défenseure des droits, qui avait donc une parole double, puisque à l'époque, elle présidait ATD Quart Monde, donc elle a été au moment où, du lancement en fait, du projet. Le registre dans lequel se situe ce projet, c'est quand même celui du droit au travail, du droit à l'emploi pour tous, qui figure dans la Constitution, dans les préambules de la Constitution et de 46 et de 58.
Alors au moment où vous commencez à vous pencher sur ce projet-là, vous vouliez poser un regard critique sur le dispositif.
C'est-à-dire au début, j'en ai pointé les limites, c'est-à-dire je considérais que le choix d'un territoire, c'est super, mais en même temps, le territoire, il est défini par un boulevard, et celui qui habite d'un côté du boulevard, il a le droit à l'emploi, et celui qui habite de l'autre côté, il n'y a pas droit. Bon, c'est le principe, en fait, des territoires. Donc je trouvais que c'était quand même une limite, mais en même temps, bon, c'est la règle, et puis ils sont passés de 10 territoires à 60, à 80, là, les choses vont s'élargir. Le but, effectivement, c'est de faire en sorte que ceux qui sont de l'autre côté du boulevard puissent avoir les mêmes droits que les autres.
Avec le recul, en regardant votre film quelques années plus tard, on se rend compte qu'il y a eu des temps forts, et un de ces temps forts, ça a été de convaincre le Parlement d'adopter cette loi.
Or, ils ont réussi quand même à prouver que non seulement ça coûte rien, mais il est possible que ça rapporte quand même, à un moment donné. Et puis deux, il s'agissait surtout de ne pas s'attaquer au sacro-saint dogme de notre économie, à savoir la concurrence libre et non faussée. Donc il s'agissait de dire que cette chose-là, on la ferait pour autant qu'on ne fasse pas concurrence, évidemment, aux gens qui, eux, ne reçoivent pas d'aide, quoi, voilà. Et donc de chercher des emplois, des domaines d'activité qui n'entrent pas en concurrence.
En filmant ces parcours, vous avez suivi des personnes qui entraient peu à peu dans ce dispositif. Qu'est-ce que vous avez pu observer entre les attentes qu'elles avaient au départ et ce qu'elles ont réellement vécu au fur et à mesure que l'expérience avançait ?
Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est faire contre mauvaise fortune bon cœur. D'une certaine façon, c'est des gens qui ont connu quelquefois 4 ans, 6 ans, et même 18 ans de chômage. Maintenant qu'ils ont trouvé un travail, ils en parlent comme si tout ça était oublié derrière eux, sans qu'il y ait la moindre trace de ressentiment. Il y a une sorte de joie. C'est pas démonstratif, mais dans la manière dont ils parlaient, il y a toujours dans leur discours une espèce de distance qui fait qu'ils parlent du passé comme si c'était un passé lointain, alors que c'était il y a un an ou deux. Mais il s'est passé suffisamment de choses pour que, d'une certaine manière, ils considèrent que c'est une chance. On n'est pas dans le travail obligatoire. C'est pas on vous propose du boulot, vous avez intérêt à le prendre. Tous ces gens-là sont des gens qui ont dit « Ok, d'accord, je veux bien ».
Quand on parle d'étendre ce dispositif à plus grande échelle, la question de sa rentabilité et des freins éventuels se pose forcément. Patrick Valentin, quels sont, selon vous, les principaux obstacles à une généralisation plus large de territoire zéro chômeur de longue durée ?
C'est vrai que c'est de l'investissement social. Mais alors, ce qui va freiner, c'est l'aspect comptable des budgets. Ça va être délicat, il y a du travail à faire, mais ce n'est pas du tout impossible. D'ailleurs, je crois que je le dis dans le film, cette comptabilité des entreprises va nous aider grandement, je pense. Oui. Parce que y a une évidence comptable. Ça, les gens en ont besoin.
Territoire zéro chômeur de longue durée ne coûte pas plus. Il transforme le coût du chômage en emploi utile. Moins d'allocations, plus de salaires et des vies qui reprennent leur place. Reste une question. Osera-t-on demain généraliser l'expérimentation ?
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Ce reportage est signé Margot Doucet pour L'Autre Radio. Vous écoutez l'Agité du local sur L'Autre Radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Place à la musique, maintenant un petit détour avec la voix de Charlotte Gard-Cardin. Tant pis pour elle, juste avant de retrouver Soizic et sa chronique, un autre écho de l'écho.
Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle. Retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Fini ce bordel, hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin de tes querelles, tes pluies torrentielles. Elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je le vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne rappelle. Regarde mes lèvres, qui invitent les tiennes. Pour elle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel.
On termine cette émission avec un tour d'économie et c'est notre chroniqueuse Soizic qui nous le propose avec un autre écho de l'écho. Bonjour Soizic.
Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ouais, ce matin je vous propose un petit cours d'économie avec un concept clé finalement assez consensuel dans le milieu des économistes, à savoir la destruction créatrice. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Eh bien la destruction créatrice nous vient de Joseph Alois Schumpeter, économiste de la première moitié du XXe siècle, dont de nombreux économistes contemporains se réclament, comme par exemple Philippe Aguillon, qui a l'oreille d'Emmanuel Macron, aussi bien lors de sa première campagne présidentielle qu'aujourd'hui. Alors le concept de destruction créatrice consiste en deux évolutions inverses. La première est que les innovations sont le moteur de la croissance économique. Les innovations améliorent la productivité, ce qui permet de produire à plus faible coût et d'augmenter ainsi tous les revenus. Les salaires pour les travailleurs, les profits pour les entreprises et les impôts pour l'État. Tout le monde est content. Alors certes, dans un premier temps, les innovations remplacent effectivement des procédés devenus obsolètes. Prenons l'exemple de la voiture qui a remplacé le fiacre. Mais dans un second temps, cela crée des richesses et de l'emploi. Après le temps de la destruction, vient le temps de la création. Si je reprends mon exemple, eh ben, vous voyez bien que certes, le secteur d'activité lié aux voitures à cheval, cochers et maréchaux ferrants par exemple, ont disparu, mais qu'in fine, l'industrie automobile a créé des milliers d'emplois et de la croissance économique. Autrement dit, les économistes orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui, 80% à peu près, hein, qui enseignent dans les oreilles de nos chers étudiants en faculté, eh bien pensent que la croissance sera éternelle si nos ingénieurs innovent suffisamment. Et pourtant, quelques voix dissonantes relativisent l'optimisme de la destruction créatrice. Et notamment Daron Acemoglu, prix de la Banque de Suède 2024, excusez-moi du peu, prosaïquement appelé prix Nobel d'économie. Alors pour lui, la croissance économique provient principalement des institutions que sont en économie les règles formelles ou informelles qui régissent les interactions entre individus, telles que les lois, les contrats, le marché et toutes les institutions politiques de façon plus générale. Pour notre économiste réputé mondialement, une bonne institution protège, émancipe ou et renforce la confiance entre les agents, permettant ainsi la croissance. L'exemple le plus cité sont les droits de propriété intellectuelle, parce que cette institution, c'est-à-dire cette règle formelle, vise à protéger l'innovateur en évitant le pillage de sa découverte, donc encourage l'innovation, donc la croissance. Alors, ces précautions méthodologiques étant posées, ce qui est intéressant chez Acemoglu, c'est l'analyse qu'il fait de l'intelligence artificielle. D'une part, il remet en cause le systématisme optimiste de la destruction créatrice. Il illustre son propos avec l'invention, par exemple, du métier à tisser durant la révolution industrielle de Grande-Bretagne, qui a, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, facilité les choses à long terme, mais à court terme, accru considérablement les inégalités, et il aura fallu un siècle de croissance pour combler ces inégalités. Dont acte. D'autre part, Acemoglu s'attache particulièrement au problème de la détention de l'IA par quelques énormes groupes formant au final un quasi-monopole. Et ce qui inquiète notre économiste, ce n'est pas tant cette nouvelle technologie en tant que telle, mais la centralisation des informations qu'elle occasionne. Avec l'IA, nous confions notre avenir à une poignée d'entreprises, nous dit-il. Certes, l'existence des trusts gigantesques n'est pas un fait nouveau. Acemoglu rappelle qu'il y a déjà eu des monopoles aux États-Unis, comme par exemple la Standard Oil. Sauf que la Standard Oil contrôlait du pétrole, alors que les producteurs de l'intelligence artificielle contrôlent l'information et les données. Une sacrée menace pour la démocratie. Et rajoute Acemoglu, il est inutile de compter sur les dirigeants de la tech, même si la plupart étaient individuellement bien intentionnés, pour devenir vertueux. Parce que c'est le fait même d'être aussi puissant qui génère obligatoirement le drame. Et ce drame ne réside pas forcément dans l'intelligence artificielle, mais dans les institutions politiques qui ne sont pas adaptées à cette nouvelle technologie de rupture. Parce que, alors que l'État américain a cassé les monopoles au début du XXe siècle, dont la Standard Oil, eh bien aujourd'hui, il laisse prospérer, voire incite les entreprises de l'intelligence artificielle à racheter et à écraser leurs concurrents pour détenir un pouvoir absolu. Or, quand le pouvoir est absolu, qu'il soit politique ou économique, eh bien la démocratie est en péril. Et Acemoglu va encore plus loin. Pour conforter leur monopole, nous dit-il, les Zuckerberg, Tim Cook et autres Elon Musk sont de fait obligés de manger dans la main de Trump, parce que c'est la main qui les nourrit, parce qu'il leur accorde ou non les subventions et oriente la loi ou non en leur faveur, notamment en laissant prospérer leurs monopoles qui sont inconstitutionnels aux États-Unis. Autrement dit, les entreprises de la tech centralisent les données, ce qui est déjà inquiétant, mais elle pourrait en plus s'inféoder au gouvernement fascisant qu'est celui de Trump. Alors voilà, Margot, une thèse qui m'a semblé intéressante parce qu'elle va plus loin que le simple jugement de valeur d'une technologie révolutionnaire, hein, et parce qu'elle met l'accent sur les institutions politiques qui doivent garantir la démocratie et le bien commun. Et j'ai trouvé que c'était suffisamment rare chez un économiste contemporain pour être relevé.
Merci beaucoup, Soizic, c'était passionnant, c'était la chronique, un autre écho de l'écho à retrouver en podcast d'ailleurs sur le site internet de l'autre radio. Merci Soizic.
Merci, bonne journée à tous.
Pas besoin de passeport, vous êtes déjà dans l'agité du local.
C'est bien.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Lucie des Agathe Rose d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à Soizic. La musique originale de votre émission quotidienne est signée Lénaïk Folzour. Ce soir sur l'autre radio à 19h, nous écouterons Novorama. Chaque semaine, l'émission propose une sélection de nouveaux albums indie, rock, pop et électro avec des chroniques et une interview d'un groupe ou d'un artiste émergent. Puis à 21h, changement de décor avec Chaosphère. Christophe nous emmène en Roumanie, à Brasov et Raznov pour le festival Rockstad. Entre tourisme et festival Report, c'est le premier volet d'une immersion au cœur de la Transylvanie. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la JT du local. Ce sera le grand format de la semaine avec le collectif Minuit 12. Nous parlerons du corps quand il devient une arme de résistance féminine. D'ici là, gardez un petit moment rien que pour vous. Ces instants là comptent plus qu'on ne croit. S'il vous plaît, faites-le bien.
Allez, on vous laisse tranquille.
Mais on revient demain, ne nous oubliez pas.